Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une montpelliéraine, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui ne m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Il y a quelques semaines, j'ai invité Benoît Ramos, qui propose des visites de Montpellier comme guide-conteur. Il était impossible de l'ignorer dans cette émission qui propose de raconter notre ville. C'est la même chose avec mon invité d'aujourd'hui, qui, à sa manière, accompagne aussi des visites originales de Montpellier. Pauline Saint-Lambier, merci d'avoir accepté de venir au micro de Divergence FM. Vous avez en poche une licence professionnelle technique d'architecture et un master, je développe, stratégie du développement culturel, médiation de la culture et du patrimoine. On voit donc ainsi vers quoi s'orientent vos centres d'intérêt. Vous êtes guide touristique et guide conférencière. En 2017, vous avez créé Visite Insolite, avec une apostrophe et les deux mots collés, des parcours hors des sentiers battus. Et vous avez publié en 2022, aux éditions Emmons, le livre « 111 lieux à Montpellier à ne pas manquer », réalisé avec le photographe Samuel Duplex. Mais avant de suivre vos pas dans les rues de Montpellier, comme vous les proposez, racontez-nous d'abord votre propre Montpellier, non pas avec le regard de la guide professionnelle, mais, si vous le voulez bien, avec celui de simple habitante, votre Montpellier personnel et peut-être secret. Pauline Saint-Lambier, quels sont les lieux à Montpellier que vous appréciez particulièrement, auxquels vous êtes attachée?
Alors, bonjour Alain. Il y a plusieurs lieux qui attirent mon regard en tant qu'individuel et montpelliéraine. Là, comme ça, à première vue, j'aime beaucoup la Tour de la Babote.
Oui.
C'est un lieu qui, à la fois, est fascinant de par sa forme assez atypique.
Les restes des remparts.
Les restes du rempart, de la commune clôture, hein, comme on l'appelait au XIIIe siècle. Et également du fait qu'elle a eu énormément de différentes fonctions, et notamment observatoire d'astronomie.
D'où le nom de l'arrêt du tram, observatoire. Exactement. Et boulevard de l'observatoire, parce que tout le monde dit la Babote et on oublie un peu l'observatoire, sauf que depuis que le tram a remis ce mot dans l'usage quotidien.
Exactement. Alors après, je pourrais citer également le conservatoire d'anatomie, mais également... l'amphithéâtre Saint-Côme, donc l'hôtel Saint-Côme, qui se trouve dans la Grand Rue Jean Moulin, qui est un lieu au milieu du XVIIIe siècle, un lieu où on y faisait des dissections anatomiques et qui servait à la science, à la médecine, un lieu incontournable qui était assez magique. Et d'ailleurs, on associait les chirurgiens aux barbiers. Au XVIIIe siècle.
Oui, c'était un peu la même profession. Donc, c'est le siège principal, le siège officiel de la Chambre de commerce et d'industrie. Voilà. Et donc, on avait l'amphithéâtre. Et en pied de l'amphithéâtre, au centre, la table de dissection au bénéfice des étudiants.
Alors, c'était fait un peu illégalement, mais bon, c'était quand même assez
Et encore
magique.
Un, alors, pour...
Alors, un lieu de vie, peut-être. Je parlerai peut-être de l'herboristerie moderne, qu'on appelle notamment Infuse, qui est dans deux rues Montpellieret, et qui était un lieu détente. On est sur le bien-être en ce moment, post-confinement. On est sur la santé. Et donc, c'est un lieu où on apprend... les plantes médicinales, c'est quand même ça fait partie de l'histoire de Montpellier. Et c'est aussi un lieu où on peut se relaxer, où on peut se soigner. Ce sont des pharmaciennes qui ont conçu ce concept d'herboristerie moderne.
C'est
pas loin, en fait, de Musée Fabre. C'est derrière le Musée Fabre. Deux rues Montpellieret.
Et on peut le visiter ?
Alors, vous pouvez entrer et découvrir ce lieu de vie. Vous avez tout ce qui est lié à la santé, au bien-être. Vous avez aussi, vous pouvez faire du yoga, vous pouvez faire des massages, etc.
Très bien. Alors, on va tout de suite, le regard que vous avez, on en parlera, trouver des lieux qui ne sont pas toujours connus, mais bien sûr intéressants. Et quand vous recevez des amis ou des membres de votre famille qui sont de passage à Montpellier, donc vous faites la guide à titre amical ou familial, qu'est-ce que vous leur dites de la ville, qu'ils ne connaissent pas ou peu? Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Alors Montpellier, c'est vrai que c'est une capitale, anciennement capitale du parfum, c'est une capitale des plantes, c'est une capitale de la médecine, du droit également. Hein. Ça, c'est le côté professionnel. Le côté personnel, c'est juste ressentir les choses. C'est une ville qui bouge, qui est dynamique, qui est culturelle, qui est jeune. Une ville de rencontres où il fait toujours beau. Le climat...
300 jours par an, rappeler le maire à ses voeux la semaine dernière.
Donc ça, il faut bien le préciser. J'ai tendance à beaucoup valoriser cette ville parce que c'est une ville que j'ai adoptée, étant née à Sète, comme vous l'avez dit, vécue à Nîmes. Voilà, entre les deux, finalement, j'ai fait une partie de mes études et j'ai décidé d'y vivre. Et c'est une ville que j'aime valoriser tant pour sa façon de vivre, son bien-être, son savoir-vivre et son émulsion.
Alors ça, on voit bien là,
développement également. Elle est en constant développement, cette ville.
Alors, est-ce que pour le coup, vous précédez la question suivante, ce que vous décrivez, est-ce que ce sont les signes distinctifs qui permettent de me dire que Montpellier, ce n'est pas comme les grandes villes voisines ou les autres métropoles françaises qu'on peut connaître, quoi. Voilà. Alors, est-ce que s'il y avait une espèce de, vous l'avez fait là en partie, une espèce de portrait de la ville qui permettent de la caractériser par rapport à d'autres villes comparables, y compris les grandes villes françaises.
Alors, c'est vrai que depuis Georges Frêche, il y avait une ambition de s'agrandir, de pointer vers la mer. C'est une ville qui est jeune, mais qui se dynamise et qui grossit, bien sûr, qui a un accroissement terrible de la population, qui a attiré l'héliotropisme par le soleil, par le fait qu'il y a des pôles aussi informatiques. Donc c'est vrai qu'elle est attirante, elle est attractive, cette ville. Et c'est vrai qu'elle elle a grossi, mais de façon... Alors il y a du positif comme du négatif, mais c'est un peu délicat, toujours, hein, du négatif, guillemets.
Pour le dire d'une manière, bien sûr, c'est la croissance urbanistique et démographique qu'a connu la ville et qu'ont vécu, et vous l'avez fait vous-même, les habitants depuis 10 ou 20 ans. Il y a deux attitudes, je force le trait. Bon, ceux qui disent c'est bien, c'est la traduction du développement, du rayonnement, de l'attractivité de la ville. Et d'autres, et peut-être les plus anciens, en tout cas les Montpelliérains, si j'ose dire, qui sont un peu plus réticents. Donc le Montpellier qu'ils ont connu a disparu. En tout cas, c'est échappé, où il faut précisément le rechercher au détour de quelques rues. Votre point de vue, là, comment vous situez dans cette alternative ?
Alors, moi, je suis arrivée en 2015, vraiment installée. Je ne suis pas nostalgique et je peux comprendre que certains, les anciens, soient nostalgiques. J'aime beaucoup discuter avec ces gens qui ont vécu le Montpellier d'avant, voilà, si on peut mettre des petits guillemets. Moi, je pense qu'il y a du... Alors, si je commence par plutôt, entre guillemets, du négatif, le côté gentrification, ça peut être un peu gênant parce qu'au niveau logement, c'est problématique dans le centre et autour.
Voilà, c'est-à-dire des quartiers populaires.
Les classes moyennes
Figueroles,
qui se logent.
Les Beaux-Arts.
C'est ça.
J'en oublie un. Où la population a
boutonné.
Changé. Hein, boutonné, voilà. Où la population habituelle est partie, bon gré mal gré, ou en tout cas n'est plus là, au bénéfice de gens qui ont un peu plus de moyens, qui ont retapé les maisons ou les appartements, qui ont donc changé la physionomie et la composition sociale ou socio-économique des quartiers. C'est ça, j'explique la gentrification.
Voilà, en soi, moi j'aime tout type de public, hein. J'ai pas de préférence ni rien. C'est plus, une gêne vis-à-vis de ces classes moyennes, voire, moins riches qui n'ont plus accès à ça et qui ne sont plus dans cette émulsion, dans ce centre. Donc ce centre urbain qui est quand même intéressant quand il y a une mixité sociale. Enfin, mes valeurs. C'est le point négatif. Le reste, je trouve que il y a quand même des valeurs et des choses qui tend vers l'urbanisation, mais le partage avec la ZAT, donc Valérie avec le magazine Loco, LO2KO, en parle bien dans ses podcasts.
Valérie Hernandez, je précise.
Hernandez,
voilà.
Pardon.
ZAT, zone d'activité artistique temporaire, donc qui va se poursuivre, qui s'est faite sous une forme légère au moment du lancement de la gratuité. Puis on avait reçu ici Pascal Lebrun-Cordier, là, qui est le directeur artistique de la ZAD. Donc là aussi, ça fait partie des choses que vous avez repérées. Et est-ce que pour finir sur ce chapitre, Comment, à vos yeux, se conjuguent ou pas les quartiers anciens, bon, les quartiers médiévaux, les quartiers 18e, 17e, et les nouveaux quartiers qui se sont beaucoup développés, principalement vers le sud-est de la ville? Comment vous le voyez, cette coexistence de l'ancien et du moderne?
Alors, je trouve que, je vais revenir sur Georges Frêche, mais l'ambition qu'il avait, même si je ne suis pas forcément de la politique, il avait l'ambition de réunir, en fait, le parc du Pérou avec l'Antigone, en créant toute une continuité, en fait, qui était vraiment assez précurseur, enfin, ouais. Quelque chose qui était visionnaire plutôt, voilà, je vais y arriver. Je trouve que c'est plutôt... l'ambition y est. Il y a des choses qui sont réussies, d'autres pas encore. On n'a pas encore atteint. Et il y a quand même... Ça fait quand même des sortes de gens entre soi par quartier. C'est bien qu'il y ait des événements culturels qui permettent de rassembler les gens autour de l'art, autour des différents types de quartiers urbains, entre l'ancien, le médiéval, le moderne et voilà, le contemporain. Il y a encore du chemin à faire et je pense que notre maire actuel a cette ambition dans la continuité vouloir faire ensemble.
Voilà,
en fait.
L'axe que vous avez évoqué, bon, je le dis au passage, il démarre même aux Arceaux avec l'aménagement de la place Macron qui est en cours jusqu'au Lès. Et cette idée de faire vivre l'axe. Et après la place Malastroquette, c'est la place de la préfecture, des Martyrs de la Résistance, qui va être l'objet d'une rénovation pour donner aux piétons une place qu'ils n'ont que peu actuellement, et ainsi de suite. Bien. Donc, nous voilà dans le bain, et on va donc, si vous le voulez, suivre les chemins que vous nous proposez. Première question, qu'est-ce qui vous a conduit à choisir ce métier de guide touristique est-ce que c'était un choix, je veux dire, on peut le comprendre dans un parcours d'études et après une intégration professionnelle un peu par nécessité, ou est-ce que c'est vraiment un choix délibéré de votre part, ou la manière de satisfaire une passion?
Alors, je suis purement passionnée.
C'est ce qu'on avait cru comprendre.
C'est un choix purement délibéré. Voilà, j'ai fait un BTS tourisme aussi, donc réceptif pour recevoir les gens français ou étrangers sur notre territoire. Alors, enseignement Languedoc-Roussillon. Et voilà, c'est au cours de ça que j'ai eu ma carte de guide régionale d'abord et après nationale. C'est un concept que j'ai conçu en 2017 pour...
J'en viens... Avant de mettre au point ce concept, dont nous allons parler, bien sûr, dans le détail... Le choix professionnel au départ, c'était cette idée quoi, de transmission, de médiation, pour reprendre un mot qu'on utilise en pareil cas, d'accompagner des gens dans une découverte. C'est ça le ressort de votre choix professionnel?
Alors, mon choix, c'est vraiment de faire vivre aux gens une expérience, de valoriser un territoire, son passé, mais aussi son présent. Et aussi de mettre en lien, donc d'être médiatrice entre un public ou des publics et des acteurs
de ce territoire
qui dynamisent le territoire, voilà, qui sont de l'ordre du culturel, du patrimonial ou du commerce.
Très bien. Alors, cette idée de visite insolite, comment vous est-elle venue? Bon, vous connaissiez la ville, vous aviez fait un travail classique en termes de travail de guide. L'idée originelle, le déclic, ou l'idée qu'il y avait quelque chose de sympa, d'intéressant à faire, comment cette idée est-elle née?
Alors, déjà parce que les gens avaient une envie de faire des visites moins classiques et moins... Il y avait une vision quand même ennuyeuse autour des visites classiques. Et aussi, je suis partie du constat que les gens, quand ils vont à l'étranger, ils visitent une ville et ne prennent pas le temps de redécouvrir leur patrimoine. Envie aussi... Montpellier a un potentiel énorme en termes d'histoire, de culture et de gastronomie. Et donc, pour moi, c'était une évidence de concevoir un concept qui soit à la fois valorisant et à la fois original. Je suis un peu, malgré moi, quelqu'un qui fait toujours des choses assez créatives et je ne fais pas exprès. Et donc, j'avais besoin de... à la fois de répondre à cette demande de personnes qui voulaient vivre une expérience et à la fois de valoriser le territoire et les gens.
Donc, ça, c'était un peu l'idée originelle, l'intuition de départ. Et donc, comment s'est-elle traduite donc, depuis 2017?
Alors, depuis 2017, j'ai eu chaque année des publics différents. D'abord, c'était vraiment des locaux pour qu'ils redécouvrent leur ville.
Oui.
Et ensuite, j'ai eu, je ne sais plus dans quel ordre, mais c'était des entreprises, des publics étrangers, des seniors, là, j'en suis plus à autre chose là aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure. Mais là, voilà, chaque année, j'avais un public supplémentaire.
Donc, à la fois des visiteurs, des non-montpelliérains, mais aussi, parce que je m'interrogeais là-dessus, des montpelliérains qui ont saisi cette occasion de voir la ville d'un nouvel œil, quoi, d'un autre œil.
C'est comme ça que j'ai conçu mon concept à la base, hein, vraiment, de pouvoir prendre le temps de lever la tête et d'observer des détails insolites. On n'aurait pas fait attention. Et il y avait toujours le même remarque de gens. « Oh, mais je passe jamais par là. Oh, mais j'avais jamais remarqué ça. Oh, mais je pourrais écrire un livre, en fait, dessus. »
C'est ce que peut-être vous avez fait, d'ailleurs, on va en parler. Alors, vous proposez 4 thématiques. Hein, vous pouvez nous dire lesquelles et qu'est-ce qui vous a conduit à les choisir, là, comment se traduisent-elles, ces 4 grandes thématiques qui structurent votre offre de promenade.
Alors, tout à fait, c'est une promenade, une balade. Et donc, les thématiques, c'est le patrimoine, l'art contemporain. Donc, on entend galeriste, galerie, oser entrer dans une galerie. Ce n'est pas forcément codé. Maintenant, il y a le street art qui est très tendance aussi. Donc, je mets ça dans le même thème. L'artisanat, on a les ateliers Saint-Roch avec plein de types d'artisanat possibles et très talentueux. Et le dernier point, donc tout ce qui est commerce, donc la gastronomie. Et donc se faire plaisir en redécouvrant ou découvrant les spécialités locales et en allant dans des épiceries, chocolateries, etc.
Donc les promenades, pour reprendre le mot que nous avons partagé, sont organisées autour de ces 4 thèmes ou il y a des promenades spécifiques sur chacun des thèmes?
Alors, ça, c'est une évolution. La première partie, les samedis, les gens en groupe individuel pouvaient me suivre à travers ces 4 thématiques sur une partie de Montpellier, du centre. Et les mercredis, il y avait une autre partie, pareil, ces 4 thématiques. Maintenant, ça a évolué et donc il y a beaucoup plus de demandes privées personnalisées. Donc, les gens, comme au restaurant, vont choisir à la carte
qu'est-ce qu'ils
souhaitent. Voilà. Donc, je voudrais, moi, savoir toutes les spécialités gastronomiques de Montpellier autour et en même temps de savoir sur le patrimoine qu'est-ce que je pourrais redécouvrir ou découvrir tout simplement sur la partie médiévale. Tout est possible.
Donc, ça permet donc aux visiteurs qui se tournent vers vous de composer avec vous, bien entendu, vos conseils, vos propositions, ces itinéraires de découverte.
Et je suis là pour les guider aussi.
Alors, il y a des rencontres prévues, des contacts avec des commerçants, des artisans. Là, comment vous avez choisi? Parce que là aussi, l'offre, les capacités sont assez considérables. Vous avez opéré une sélection, une manière de distinguer ceux qui vous paraissaient les mieux à même, à la fois de parler de leur métier, peut-être de leur talent, mais aussi d'être représentatif un peu, d'être les ambassadeurs de Montpellier du même coup, je suppose.
Alors, les 2 premières années, voire après, il faut se réadapter à chaque fois et être en veille de ce qui se passe. J'ai fait énormément de rencontres, de réseaux et de rencontres pour inclure en fait les partenaires de visites insolites. Et donc, l'intérêt, c'était de voir comment ils travaillaient, comment ils pouvaient parler de leur travail et s'il y avait réellement de la qualité derrière pour l'inclure dans le parcours. Donc, ça a été un travail de longue haleine, mais à la fois un travail ensemble.
De prospection,
tout à fait, c'est ça. De recherche et de travail aussi main dans la main, parce que c'est quelque chose aussi qui pour moi, est important. Je ne suis pas de hiérarchie, il n'y a pas de hiérarchie.
Oui, mais en même temps, vous n'attribuez pas un label officiel, il y en a beaucoup, mais c'est une espèce de, quand même de reconnaissance,
oui.
Votre engagement, c'est celui quand même de la qualité de ces professionnels-là.
Exactement, la qualité. Et moi, je leur garantis le passage avec ces clients, ces visiteurs, et qui parlent, la valorisation de leurs produits ou de leur pratique artistique, leur savoir-faire. Voilà, il y a énormément de choses à mettre en avant.
Alors, bon, là aussi, bon, comme je l'indique quand on prépare l'émission, bon, cette émission, c'est pas un catalogue, c'est pas une promo, mais enfin, autant être clair. Vous proposez trois types de formules, principalement. Là, vous pouvez nous les décrire à grands traits pour que les éditeurs et auditrices voient de quoi ils retournent.
Mm-hmm. Alors, oui, c'est en évolution aussi, ça. Donc, la première visite est en fait visite standard pour des groupes d'individuels qui voudraient se rassembler et faire des visites thématiques. Donc souvent, c'est les quatre thèmes à ce moment-là qui sont mis en avant sur des prix voilà, très abordables. Et après, on a plus une visite prestige où là, c'est vraiment des individuels qui vont être amenés à découvrir la ville sur commande, en fait, hein, privée. Et après, on passe sur la troisième formule qui est une formule VIP qui vraiment est adaptée pour les entreprises. Et là, c'est du sur-mesure.
D'accord. Donc ça, ces formules-là, ça s'accroche à un rendez-vous professionnel, à un congrès, à une manifestation dans laquelle figure au programme, je dirais, vos visites, c'est ça, grosso modo, cette manière
voilà,
dont ça se passe.
Voilà, tout s'adapte, des entreprises qui viennent pour des séminaires ou des incentives et qui veulent une visite avec des thématiques, mais ils peuvent aussi faire un city raid. Et là, c'est avec une collègue qu'on travaille et c'est une sorte de jeu. On n'est pas sur la chasse au trésor où on va en fait faire un parcours ludique en fait dans la ville et ils vont se challenger, ils vont apprendre des choses.
Avec
mais
quoi
en même temps,
d'un quiz, des questions
des, tout à voilà. fait, sur un livret, sur des livrets pédagogiques qu'on a conçus avec ma collègue qui est dans l'événementiel.
D'accord, on va voilà. peut-être citer son nom alors.
Alors, Sophie Besnier, donc, qui a un nom spécifique sur Comme One Event by So.
Et voilà. qui a mis ça au point avec vous, donc.
Tout à fait.
D'accord. Alors, ce qu'on peut dire à ce stade de notre échange, c'est que votre connaissance fine, me semble-t-il, sensible de Montpellier a conduit un éditeur à vous faire une proposition. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé. Bon, cette proposition qui était peut-être espérée, mais pas nécessairement attendue.
Alors, c'était une belle surprise pour cette aventure. Début confinement, une maison d'édition allemande qui me contacte et qui me demande de rédiger les 100 lieux à Montpellier à ne pas manquer.
Donc, c'est une collection qui existe, qui avait publié un certain nombre de titres, qui en a publié depuis, des régions françaises, des villes, Toulouse, Marseille, etc., et qui vous ont proposé de Montpellier. Donc, mm-hmm. ça s'appelle Emmons, je ne sais pas si ça se prononce comme ça.
Voilà, Emmons, c'est une famille qui est basée à Bonn, en Allemagne, et qui a fait aussi, en fait, des numéros en Allemagne, et D'accord. aussi ailleurs en Europe.
Donc, qui avait mis au point cette formule, qui tout vous a fait. Été imposée, en tout cas, c'est mm-hmm. le cadre dans lequel vous avez été invité à travailler. Alors, comment vous y êtes prise, là ? Comment vous avez, je dirais, structuré, organisé ces 111 lieux ? Donc, 111, ça paraît beaucoup, mais il y a des choses évidentes et des choses toutes petites et sympathiques. Voilà, cette composition, j'allais dire florale, mais ce n'est pas tout à fait ça. Cet assemblage, comment l'avez-vous conçu ?
Alors, donc, j'ai listé par thématique, par lieu. Il fallait des lieux, il y avait quand même certains critères, des lieux centraux, des lieux autour, voilà, c'était à la demande. Des lieux plutôt patrimoine, donc plutôt historique, plutôt lieu de vie, des lieux plutôt artisanat, voilà. Il voulait justement qu'il y ait des thématiques très différentes et pas seulement portées que sur l'histoire.
Voilà, donc il y a une sorte de, pas au hasard, hein, je suis la page d'accueil, l'hôtel Métropole, sous-titre « Un concentré d'histoire montpelliéraine », donc cet hôtel, l'hôtel... repéré, quoi, classique. Et puis, dans un autre genre, et pas très loin, le MOCO, les différentes facettes de l'art contemporain. Donc, une page de texte et un vis-à-vis, une photo, donc, de Samuel Duplay, qui vient, bien sûr, donner à voir, et peut-être donner envie aux visiteurs. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un travail quand même assez conséquent, j'imagine, parce qu'il y a beaucoup d'informations historiques, hein, architecturales et autres, hein, qui donnent du contenu et du poids aux 200 pages et quelques que le livre comporte. Hein, un travail que Covid a favorisé, puisque vous aviez du temps.
Eh bien, c'est bien tombé, finalement, cette aventure. Quand on nous a fait la proposition, je dis « on », puisque voilà, le photographe étant mon conjoint, on s'est dit « pourquoi pas ?». Et c'est vrai que le fait d'avoir ce temps nécessaire pour réaliser cette rédaction et ces photos... a été voilà, un travail de longue haleine, hein, je le cache pas. Et en même temps, ça permet de se lancer dans l'aventure et de vivre finalement, être dans un autre domaine et de pouvoir mettre à l'écrit le fruit de mon travail.
Voilà, parce qu'il voilà. y avait l'acquis.
Il y a un lien.
Il y a le travail complémentaire que vous avez fait peut-être dénicher quelques idées qui venaient ensuite de celles que vous avez eues spontanément.
Mm-hmm,
pour, parce
C'est
que
ça.
Voilà, le... Le cadre éditorial dans lequel vous êtes inscrite, bon, celui-là, il est bien sûr, on l'a bien compris, il est imposé par l'éditeur. Et ses relations avec l'éditeur, hein, bon, ça s'est bien passé là, pour arriver à bonne fin, là, de répondre à cette demande, mais en même temps, vous l'avez dit, de valoriser votre connaissance de la ville. Et du coup, ça renvoie quand même un peu aux visites insolites, puisqu'il y a un certain nombre de ces 111 lieux qui sont eux-mêmes insolites.
Oui, tout à fait. Alors, ils travaillent très professionnellement. Je n'ai pas de clichés sur l'Allemagne. C'était très rigoureux. et il n'y avait pas d'excuses possibles. J'ai juste obtenu des 6 mois supplémentaires par rapport aux circonstances de la situation.
Oui, bien sûr.
Qui fait qu'il y a des lieux où on ne pouvait pas les prendre en photo, qui n'étaient pas ouverts, ou tout simplement se nourrir pour avoir la matière pour écrire.
Bien sûr. D'accord.
Donc ça s'est bien passé relativement. Et voilà, je suis encore très en lien avec eux.
Ah, peut-être d'autres projets.
Tout à fait.
Dans la même... Alors... Pour donner aux auditeurs, alors j'indique aux auditeurs que comme notre rendez-vous a été calé un peu plus tôt que prévu, j'ai pas mis la main sur le livre, je l'ai pas lu, ce qui est bien sûr regrettable, mais les auditeurs voudront bien m'en excuser. Pour nous mettre en envie, si j'ose dire, donner quelques exemples de choses moins connues, parce que j'imagine, je sais pas quoi, qu'il y a l'opéra en comédie, qu'il y a bien sûr le jardin des plantes ou les jardins du Pérou, j'imagine qu'ils y sont. Quelques petites. Choses plus inédites, pépites, je dirais, qui raconteraient là aussi l'appétence que vous avez pour l'insolite ou l'inattendu ou l'inconnu.
Alors, une chose croustillante là, qui me vient en tête tout de suite, le boulet de canon. Alors, il n'y en a pas qu'un seul, mais il y en a un qui est quand même flagrant. Et je suis sûre que plein de Montpelliéraines et Montpelliérains passent dans cette rue des Étuves sans même voir qu'il y a un boulet de canon incrusté dans le mur. Alors, je ne sais pas si je raconte l'histoire.
Oui, allez-y, on a encore un peu de temps.
Alors, c'est hypothétique parce qu'il faut aller chercher bien dans les recherches en fait, pour vraiment savoir quelle est l'histoire à la base. Et la plus probable, c'est que ce boulet de canon
à quel endroit il est de la rue?
Où se trouve-t-il? Il est en fait au niveau de la rue des Études, vers la fin.
Oui.
Alors, le nom, le numéro
sur la droite en
question,
en descendant,
il est sur la droite en descendant. Voilà, c'est ça.
C'est ça.
Je n'ai plus le numéro en tête, mais ça permettra aux gens d'aller vérifier.
Donc, voilà.
Alors,
explication
celui-ci,
historique.
Ce boulet de canon a atterri en plus haut, en fait, au niveau du bâtiment, pendant une année qui a été très marquante pour la ville de Montpellier, qui est en 1622, lors de l'assiègement de Louis XIII. Donc, il y a la tour de la Babote qui est encore là. Et donc, un boulet de canon a atterri au-dessus. Il n'y avait pas une maison à ce moment-là entre la tour de la Babote et celle qui loge l'actuel boulet. Et donc, lors du ravalement de façade, le boulet de canon a été réintroduit juste au-dessus en fait, de l'entrée pour se souvenir de cet événement marquant. En fait.
Donc, c'était l'idée d'être une mémoire de cet événement.
Un détail insolite, marquant pour un devoir de mémoire. Voilà.
Donc, il faut lever la tête quand on descend sur la droite, quand on descend de la rue des Tuiles. Alors, autre exemple, Pauline.
Alors, je peux vous parler des ateliers qui est en fait pas loin du boulevard du Jeu de Paume. Et c'est un lieu en fait beaucoup composé de femmes, d'artisans très variés, que ça soit des vitraillistes ou des bijoux, du textile, etc. Et elles travaillent ensemble, solidaires. Et c'est vraiment un lieu magique où les gens vont découvrir tous les talents cachés.
D'accord.
Et les savoir-faire.
L'adresse, donc.
C'est André Michel, je ne sais plus.
Ah oui.
Ah merci.
Oui. Donc c'est une rue perpendiculaire au boulevard Jeu de Paume.
C'est ça, exactement.
André Michel.
Perpendiculaire.
Très bien. Alors, on arrive à vous. Une petite question, je vous inviterai à y répondre brièvement. Vous avez bien quelques projets, quelques améliorations de l'offre là en tête dont vous pourriez, pour conclure et encore une fois de manière brève, nous dire un mot?
Oui, bien sûr. Alors, en ce moment et depuis un an, j'ai développé une visite spéciale enfant qui a lieu pendant les vacances souvent. Et donc, ça s'adresse aux enfants entre 6 et 12 ans. Et ils sont amenés à découvrir une quartier de Montpellier à travers des personnages historiques qui ont marqué la ville. Et ensuite, ils me suivent, et avec un petit personnage, une mascotte. Et après, ils vont à un atelier créatif où ils vont refaçonner ces personnages avec du modelage.
Oui. Donc dessiner, modeler, etc.
Donc ça s'adresse aux familles et aux scolaires.
D'accord. 6-13 ans, les enfants qui sont à l'école primaire.
Voilà, exactement.
Voilà. Très bien. Ce sera le mot de la fin, Pauline Salembert.
Merci
beaucoup. À une prochaine fois.
À bientôt.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Serroc.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Bah Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.